Et oui, bonjour à toutes et à tous. Nous retrouvons comme tous les jeudis matins notre rendez-vous au de radio Niac. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas avoir Thierry Duboîtet, le président fondateur du Niac, le mouvement national des initiatives et des acteurs citoyens. Nous allons avoir la vice-présidente du Niac, Patricia Charrier-Isel. Patricia, bonjour.
Bonjour Jean-Christophe.
Alors, vous êtes vice-présidente du Niac, le mouvement national des initiatives et des acteurs citoyens. Vous êtes aussi déléguée générale adjointe d'IMS Entreprendre pour la cité. Avez-vous, Patricia Charrier-Isel, on va revenir sur l'actu du Niac, qui est toujours très riche, avec notamment ce pôle citoyen pour l'emploi, qui est lancé depuis un moment et qui est très actif encore aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Le pôle citoyen pour l'emploi, aujourd'hui, on l'expérimente sur le département de la Seine-Saint-Denis. Et l'objectif, c'est de faire bouger un peu les choses, c'est de créer des circuits courts entre les acteurs et surtout de faire que chacun arrête de bosser de son côté sur ces questions qui sont quand même essentielles. Les questions, on parle bien des questions d'emploi et d'insertion de nos concitoyens. Donc le pôle citoyen, il avance vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on a quasi 100 structures et entreprises dans la boucle. Il y a des expérimentations qui se lancent, on accompagne des demandeurs d'emploi sur des circuits courts, on promeut l'alternance, il y a une bourse à l'emploi qui s'est lancée, donc les choses avancent énormément et une fois que cette expérimentation sera terminée, on pourra en tirer les conclusions et se dire comment finalement cette initiative qui est propre au 93, à la Seine-Saint-Denis, on peut l'essaimer un peu partout sur le territoire. Mais c'est vraiment quelque chose, il y avait un vrai besoin finalement de mettre en connexion les acteurs. Et on a commencé d'ailleurs à lancer vraiment une communication un peu ciblée là-dessus, puisqu'on a fait une première édition d'une newsletter que vous retrouverez sur le site niac.fr. Donc la newsletter du pôle citoyen pour l'emploi qui permet finalement de retrouver des témoignages de ce qui peut se lancer sur le territoire.
Voilà, donc on le rappelle, le 93 est un véritable réservoir de talents. D'ailleurs, il y a une publication, réservoir de talents en 93, donc toujours disponible en librairie. On a le témoignage de nombreux entrepreneurs du 93 et notamment des jeunes entrepreneurs qui permet d'échanger des pratiques ou encore mettre en valeur des initiatives citoyennes. Aujourd'hui, vous voulez aussi voir avec vos membres et notamment cet été, aller sur le concret de leur initiative et voir aussi comment ils utilisent le réseau. Et là, il y a un questionnaire qui est adressé à tous les membres du Niac.
C'est ça, effectivement, Jean-Christophe. On va profiter de l'été pour interroger nos membres. Thierry a dû vous le dire, je sais qu'il le dit souvent, Niac, ça a grossi. On a lancé ce truc-là sur un coin de table en février 2014.
Voilà, vous faisiez partie de cette dizaine de personnes autour de Thierry, je crois.
Absolument, oui. Moi, j'ai... on peut prendre une minute là-dessus parce que c'est intéressant. Moi, mon boulot, c'est de créer des liens avec les entreprises, de faire des relations institutionnelles. Et je suis allée voir Thierry en 2013 au ministère de la Ville. Il était conseiller du ministre de la Ville sur le développement économique. Et je me suis dit, oh là là, je vais voir un énième conseiller sur le sujet. On va encore être très politiquement correct. On va rien faire de concret.
Et
je suis sortie avec la NIAC, c'est le cas de le dire.
Voilà.
NIAC n'était pas créée. Et on est parti avec Thierry sur une aventure professionnelle. On pourra en reparler tout à l'heure autour de la charte entreprise et quartier. Et puis Thierry, du coup, comme on bossait bien ensemble, m'a embarqué dans l'aventure Niac. Et j'y suis allée, moi, en février 2014. J'étais enceinte sur le point d'accoucher. J'ai accouché 3 semaines après. Et j'étais là, cette réunion qui a fait date. Était un peu en tâtonnement. On se disait, qu'est-ce qu'on va faire? Thierry avait des idées. Chacun apportait ses idées. Je me suis dit, je suis sortie de la réunion. On verra. Et puis, on voit que à peine deux ans après...
Il y a plus de 400 Niaqueurs, Niaqueuses maintenant.
Voilà. Et c'est plus de 400. On a proche plus des 500, d'ailleurs.
Ah bon.
Et maintenant, le challenge qu'on a, c'est de les animer, ces Niaqueurs.
Oui.
Parce qu'en fait, on a quand même des gens, vous en faites partie, Jean-Christophe, qui sont d'horizons très différents. On a du monde des médias, on a des entreprises, des hauts fonctionnaires, des entrepreneurs sociaux, des consultants, enfin des gens qui sont super, qui ont plein de compétences. Et comment finalement, la question aujourd'hui, c'est comment on peut se servir au mieux de tout ça, de ces compétences-là, pour faire avancer les Niaqueurs qui ont des initiatives qu'ils ont du mal à porter, qu'ils ont du mal à essaimer, parce que vous savez, on en reparlera, il y a une sphère quand même administrative qui est en France très lourde. Donc on va profiter de l'été pour interroger nos Niaqueurs sur ce qu'ils attendent du réseau, mais aussi on va les challenger pour apporter davantage au réseau, être plus actif dans le réseau. Combien je peux donner de temps au réseau? 1 heure, 2 heures par mois, ponctuellement sur un projet. Quelles compétences je peux mettre à dispo? Voilà, c'est vraiment que les gens se sentent vraiment acteurs du groupement.
Oui.
C'est vraiment ça l'objectif. objectifs. Donc, on profite de l'été. Donc, s'il y a des niaqueurs à l'écoute, je les encourage à nous à répondre à ce questionnaire. Hein. Ça va être 10 minutes chrono. L'idée, c'est vraiment que...
refaire du lien, redynamiser, voilà. Animer le réseau. Patricia, donc on poursuit avec un autre chantier, d'ailleurs je crois que vous le pilotez, c'est les propositions du NIAC pour l'élection présidentielle de 2017. Et avec une réunion d'ailleurs qui s'est tenue il y a quelques jours, peut-être nous faire remonter un petit peu l'animation de ce groupe et finalement les propositions aussi qui émanent de ces réflexions.
Tout à fait. Vous le savez, dans l'ADN de NIAC, il y a l'idée de pousser des initiatives qui marchent sur les territoires, mais il y a aussi quelque chose qu'on a lancé depuis quelques temps avec nos fonctionnaires d'ailleurs à Niaqueur, c'est de dire il faut transformer l'action publique. Hein, on voit bien que quand même c'est pas satisfaisant ce qui se passe aujourd'hui. On pond des lois sans consulter les concitoyens, donc on se retrouve avec des situations de blocage comme on a aujourd'hui. Donc nous on s'est dit Niaque après tout, on l'a dit tout à l'heure, 450 voire 500 Niaqueurs, des gens d'horizons très différents qui portent des vraies initiatives. On a des choses à dire et on a envie de dire des choses et on a envie que finalement les propositions sur la citoyenneté, sur l'insertion, etc. des candidats, elles sortent du schéma un peu classique. Donc on s'est dit, est-ce qu'on fait un truc ? Et finalement, on a conclu qu'on allait faire quelque chose. On s'est réunis effectivement il y a une dizaine de jours avec quelques niaqueurs et on va effectivement porter des propositions alors aux candidats, effectivement, mais aussi peut-être plus largement à la sphère politique dans son ensemble. Hein. Ça peut être auprès de son député, auprès de son conseil régional, auprès de son conseil départemental. L'idée, c'est vraiment d'irriguer nos propositions au plus grand nombre. Et pour ça, on veut faire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mettre en action nos niaqueurs. On veut faire un truc original, on veut pas faire le énième livre blanc sur le sujet que personne ne va lire. La force de Niaque, c'est de décoiffer. C'est qu'effectivement, on va avoir un ton décalé, drôle, viral, pour faire passer des sujets, des propositions. Et le chapeau de tout ça, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est il faut transformer l'action publique. On ne peut plus se satisfaire aujourd'hui de ce qui se passe, de la façon dont sont conçues les choses, la façon dont le politique perçoit et prend en compte les propositions des citoyens. Il faut vraiment que ça change.
Donc ça particulier, initiative citoyenne d'un côté, mise à œuvre des politiques publiques de l'autre et les niaqueurs évidemment sont force de proposition.
Absolument. Et puis on fera au-delà de ce chapeau transformation de l'action publique qui notamment, nous on prône d'autres modes de consultation. Aujourd'hui, on se précipite quand on fait des lois. C'est-à-dire la loi elle est bouclée en 6 mois, 8 mois, on peut pas consulter. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le numérique, d'avoir plein de choses. On peut avoir une forme de consultation de nos concitoyens un peu différente.
Oui, et puis le plus rapide aussi.
Oui, absolument. Absolument. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, les politiques publiques, elles font flop aussi parce qu'elles n'ont pas pris en compte au départ le bénéficiaire. Je fais une loi sur la création d'entreprise sans me mettre à la place du créateur d'entreprise. Ah, évidemment que le créateur d'entreprise, il se retrouve pas dans ce qui sort parce que c'est mal communiqué, c'est mal conçu, c'est mal monté.
Manque de consultation.
Voilà. Oui. Absolument, c'est exactement ça. Donc nous, on a un chapeau là-dessus, je pense, autour des propositions. Et puis après, vous savez, Jean-Christophe, qu'on a des coconiacs, c'est-à-dire des groupes thématiques d'expertise qui sont assez actifs. Hein, notamment, il y en a un autour du changement d'échelle, un autour de l'éducation, d'ailleurs, qui va se réunir à la rentrée. Mmh. Et en fait, on va faire bosser nos coconiacs, nos groupes coconiacs, sur des propositions qui sont liées à leur thématique. Donc on en est un peu là aujourd'hui. On a fait une première réunion, mais en une réunion, déjà, on a quand même défriché pas mal de choses.
Alors une plénière s'annonce au mois d'octobre, le 13 octobre.
Oui, alors du coup à la plénière, effectivement le 13 octobre, on espère qu'on sera toujours aussi nombreux et toujours aussi actifs. Le 13 octobre, on en dira un peu plus de ce chantier à mi-étape. Et si vous voulez, je pense que le truc à retenir, c'est qu'on veut que ces propositions, elles soient pas portées par le CA ou le bureau de Niaque, elles soient portées par tous nos niaqueurs pour que ça irrigue et que ça soit et qu'on le porte auprès du plus grand nombre en fait.
Voilà, et puis des candidats à ces élections, donc ça sera une action directe par rapport à eux pour qu'ils intègrent ces propositions NIAC dans leur programme, tout simplement.
Oui, et alors par contre, on garde bien notre visée qui n'est pas la visée que peuvent avoir pris d'autres réseaux citoyens à NIAC, et on le réaffirme et très fortement, nous sommes apolitiques. Bon, on ne prend parti pour aucun candidat, on est apolitique.
Donc
on
pas de candidat NIAC à ces élections pour l'instant.
Non, à part si Thierry souhaitait se présenter, mais je crois que c'est pas dans ses objectifs.
Très bien, on le salue Thierry d'ailleurs, hein.
Oui.
On profite de l'occasion.
Depuis la Corse, il va nous écouter depuis la Corse.
Bon, on le salue, on espère qu'il a beau temps, Patricia. Merci pour ce rappel concernant l'actualité du NIAC. Ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit peu avec vous, Patricia, votre parcours. Alors effectivement, vous l'avez un petit peu abordé, on l'a dit, vous êtes déléguée générale adjointe d'IMS Entreprendre pour la Cité, vous avez rencontré Thierry Duboîtier au moment de la fondation du NIAC, et évidemment, effectivement, aujourd'hui, vous animez de nombreuses actions, notamment dans votre cadre professionnel, mais aussi en dehors. Et si vous voulez nous dire un petit mot sur ce parcours, ce qui vous a mené aujourd'hui à apporter des actions autour de la charte entreprise et quartier, et puis on reviendra sur une action phare que vous portez également, c'est InnovAvenir.
Alors, mon parcours, moi, je suis quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise. J'ai une formation en ressources humaines. J'ai toujours, depuis le début, essayé d'amener les entreprises pour lesquelles je bossais à s'intéresser à ces questions de responsabilité sociale, sociétale, emploi, insertion, tous ces sujets. Et tout naturellement, tout ça, ça m'a amené à travailler à IMS Entreprendre pour la Cité, où j'ai été recrutée par quelqu'un qui a fait beaucoup sur les questions de diversité en France, hein, c'est Claude Bébéard, le président d'honneur d'AXA. Et Claude Bébéard, il m'a recrutée à l'époque pour créer des clubs entreprises et quartiers, parce qu'on était au lendemain de la crise des banlieues, hein, et il y avait une prise de conscience du fait qu'il fallait faire un truc sur les quartiers. Et du coup, mon boulot, ça a été pendant plusieurs années d'impliquer, de faire bosser les entreprises, en particulier les grandes, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et ça, ça m'a amené naturellement, effectivement, à cette rencontre avec Thierry, dont je parlais tout à l'heure, et effectivement, à m'associer et à être très partie prenante, parce que le ministère m'a demandé d'être en soutien de cette animation nationale de la charte entreprise et quartier, hein, qui va être, je crois, signée demain à Bordeaux.
Tout à fait, ici à Senon, au Rocher de Palmer, avec le Crépi notamment, hein, qui porte l'action sur ce territoire.
Absolument, qui est un des partenaires de la charte. Cette charte, en fait, elle dit un truc, elle sort du schéma des chartes classiques, hein. Vous savez, une charte, souvent, c'est un texte d'engagement. Bon, après, on l'applique ou on l'applique pas. Cette charte, ce qui est intéressant, c'est que c'est, je pense, une vision repensée de l'État. On parlait tout à l'heure de la transformation publique, je pense qu'on y est là-dedans. C'est-à-dire que l'État a eu l'intelligence de dire, avec les entreprises, on va co-construire et on va avoir un engagement commun personnalisé. Ça veut dire que moi, l'État, je m'engage aussi. Je vous donne un exemple, Microsoft, qui est une entreprise engagée dans la charte, qui menait beaucoup d'actions dans les collèges et qui faisait le constat qu'elle bossait avec des collèges, mais avec très peu de collèges en quartier prioritaire ou en banlieue. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a fait dans cette charte? Ça a permis, cette charte notamment, que le ministère mobilise ce qu'on a les préfets, les délégués aux préfets, pour que Microsoft puisse ouvrir la porte de ces collèges en quartier. Vous voyez, on est sur des choses hyper concrètes. Comment ça a créé de l'impact? Et donc, on est dans cette démarche commune avec Thierry, hein, puisque Thierry en est l'animateur pour l'État. Et effectivement, cette démarche aujourd'hui de la charte entreprise et quartier, elle s'irrigue partout en France, puisqu'on a 50 dynamiques locales qui se mettre en place, donc Bordeaux demain, on est déjà dans votre grande région, il y a une dynamique depuis un an et demi à Toulouse, il y a des choses qui se passent à Marseille, à Nice, en Seine-Saint-Denis, etc. Donc ça commence à bien marcher et c'est quelque chose qui est à la main du préfet, hein. Le préfet met autour de la table les acteurs du territoire et les fait avancer sur ces sujets, sur ces quartiers, parce qu'on sait quand même que nos gamins des quartiers, ils ont quand même encore aujourd'hui 3 à 4 fois moins de chances.
Bien sûr, de trouver un emploi, un stage, une formation qualifiante. Alors effectivement, absolument. Là, c'est un des outils qui va permettre effectivement de réduire cette fracture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la poursuite de cette charte entreprise et quartier, il y a cette action-là, InnovAvenir, qui touche là aussi, encore une fois, des jeunes, hein, 23 000 jeunes qui vont être touchés d'ici fin décembre 2018 par des actions concrètes autour de l'innovation et l'esprit d'entreprendre. Alors, dites-nous un petit mot.
Vous avez parfaitement résumé, Jean-Christophe. C'est une action, enfin, à l'IMS, on est plutôt des facilitateurs, c'est-à-dire qu'on fait bosser nos entreprises avec les acteurs. Et là, on s'est dit à un moment donné, il y a un trou dans la raquette. Aujourd'hui, on a 3% des jeunes de 18-25 ans qui créent leur entreprise. On n'a que 27% des filles dans les métiers du numérique. On a un enjeu du numérique qui va transformer nos vies, qui la transforme déjà, mais qui transforme aussi la vie de l'entreprise, qui transforme les métiers, qui crée plein de nouveaux métiers, hein, les programmateurs, les webmasters, etc. Tous ces nouveaux métiers-là, et ça, c'est notre constat de départ. Et en fait, on se rend compte que on est très en retard en France sur l'ensemble de ces sujets et qu'il nous faut très vite et très tôt convaincre et sensibiliser les gamins. Donc nous, on a pris le parti à l'IMS d'avoir quelque chose de très innovant, puisque on a lancé un programme qui va du CM1 jusqu'à l'université. En fait, sur les questions d'éducation, il y a beaucoup de choses sur les 4e, 3e, les universités, les lycées, mais il n'y a quasiment rien sur le CM1, CM2.
Et oui, alors là, effectivement, on commençait de bonne heure, on va dire, à diffuser cette culture entrepreneuriale et numérique. Hein.
Oui, c'est ça. En fait, on a un programme qui est très ludique, hein, qui s'appelle Coding for Kids, qui nous est mis à disposition gratuitement par un des partenaires du programme, qui est une entreprise avec qui on travaille beaucoup, qui est Intel. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait là? On a pris le parti de former les enseignants, donc de former les professeurs des écoles, à cette programmation numérique. Donc quelque chose de très ludique, hein, pour les gamins. C'est-à-dire que ça va leur permettre d'avoir une vision de ce que c'est le numérique, comment je programme un petit programme numérique, une petite application. Et ces professeurs des écoles-là, eux, ils vont dispenser ça auprès de leurs masterclass. Nous, si vous voulez, l'idée de ce programme, c'est pas de dire on va faire un rendez-vous de situation pour l'IMS, on va gérer ça pendant 20 ans. On s'est donné jusqu'à 2018 pour former les professeurs des écoles, les secondaires. On va aussi bosser avec les MJC, les centres sociaux.
Parce qu'en fait, éducateurs.
Parce qu'on a pris le parti d'essayer de voir les choses à l'école, mais aussi en dehors de l'école.
C'est ça, aller chercher le jeune où il est, quoi, finalement, quoi.
Oui, exactement. Et vous savez, on a eu un grand débat, hein, il y a un ou deux ans sur la question de l'éducation et des temps extrascolaires, c'est-à-dire le fait de terminer plus tôt l'école et en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire des gamins quand ils terminent à 4h moins le quart, etc. Et c'est vrai qu'on le sait tous pertinemment, on l'a autour de nous, on le vit, notamment dans les quartiers, dans les zones les moins favorisées. Il faut trouver des activités pour la mairie. Les activités, ça coûte cher, etc. Donc, c'est là la première injustice aussi pour les gamins qui...
Oui, c'est l'offre, finalement, de disponibles sur leur territoire, oui.
Voilà. Et nous, on propose justement de ces petits programmes, Coding for Kids. On va aussi avoir quelque chose de très innovant. On emmène à travers un jeu, en fait, pour les CM1, CM2. On va avoir quelque chose, un jeu interactif qu'on a conçu avec des profs, hein, où c'est un entrepreneur qui va venir l'animer dans la classe avec le professeur, en CM1, CM2. Et on va, finalement, c'est un jeu pendant lequel le gamin... CM1, CM2 va apprendre à ce que c'est qu'une entreprise. Donc, il crée son entreprise, si vous voulez, bien sûr adaptée en pédagogie au CM1, CM2. Et ça permet de prendre conscience très tôt de l'esprit d'entreprendre.
En compagnie d'un chef d'entreprise, en plus.
Absolument. Ouais, on va y aller. On va pas y aller entre nous avec le PDG de la grande boîte de 40 000 salariés. On va y aller avec un entrepreneur qui a monté son application. Vraiment, l'idée, c'est de faire passer cette question de l'esprit d'entreprendre et du numérique le plus tôt possible, parce qu'on le sait, dans nos quartiers, très tôt, les jeunes, les enfants, les parents s'autocensurent pour un certain nombre de choses, et notamment sur la création d'entreprises et sur les nouveaux métiers.
Du coup, Patricia Charrier-Isel, cet outil-là, Innovanir, tout le monde peut s'en saisir, c'est disponible un peu partout, sur combien de régions alors ?
Alors, en fait, il y a un site... Écoutez, qui est super, parce que je pense qu'il est construit. On parlait tout à l'heure de comment on construit les choses en pensant au public, et je pense que ce site, il est conçu pour les bénéficiaires. C'est innoveavenir.com. On vient de le lancer, hein, c'est tout récent. Et en fait, selon qui vous êtes, je suis un parent, je suis un prof, je suis un élève, je suis en primaire, en quatrième, en troisième, vous avez directement accès à l'information. C'est un programme qui est déployé très largement, hein, puisqu'il sera déployé sur 9 régions françaises. Donc, quasiment sur nos 13 régions.
Sur l'ensemble, pratiquement.
Et en Aquitaine, je sais que c'est une région qui vous est chère, hein. En Aquitaine, on a déjà commencé ce programme, on travaille avec beaucoup de collèges, à Pessac, à Senon, etc., à Lormont, on a déjà touché, à travers le programme depuis le début de l'année, 350 jeunes. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment que sur ce site, vous avez l'information. Bien sûr, toutes les actions, elles sont évidemment gratuites, et ça paraît tellement évident, mais en tout cas, vous pouvez vous y inscrire, le prof fait inscrire sa classe, et après, on regarde en fonction, effectivement, de la région que vous avez choisie.
Voilà, Innovanir.com, tout simplement, sur moteur de recherche.
Absolument.
Voilà, donc les actions pédagogiques sur le numérique, l'esprit d'entreprendre et les métiers de demain, c'est www.innovanir.com. Donc n'hésitez pas à aller rechercher les informations. On l'a vu, ça s'adresse à plusieurs cibles, à la fois les jeunes, les bénéficiaires, mais justement aussi leurs professeurs, les éducateurs. Donc on vous remercie pour ces bonnes nouvelles, Patricia Charrier-Isel. On voit que l'ONIAC, même en formule été, est toujours aussi actif. On retrouve évidemment toute la philosophie du NIAC, décloisonner le privé, l'administration, l'associatif et finalement mixer ces initiatives citoyennes et ces politiques publiques pour les rendre plus efficaces, bien entendu. Patricia Charrier-Isel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour qu'on conclue cette interview ?
Non, Jean-Christophe, vous avez tout dit. À NIAC, on a la NIAC et on avance et on essaie de rapprocher tous les mondes et on compte sur les nouveaux NIACeurs potentiels qui nous écoutent, qui pourraient nous rejoindre.
Voilà, bon, vous remercie en tout cas. On souhaite une bonne journée, Patricia Charrier-Isel. En tant que vice-président du NIAC, on était très heureux de vous recevoir sur ce magazine. Merci encore, Patricia Charrier-Isel. Très bel été, bon travail, bon NIAC et à très vite sur Odo Radio. Au revoir.
Au revoir.